Ah, bonjour, mon nom c'est Marc, je suis un outre-mangeur compulsif. Je vais te présenter tantôt, fait que pour moi de recommencer, il y a une heure j'ai été présenté. Et moi, ça me démontre une chose bien simple. Dans AA, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Les problèmes sont dehors. Puis arrive des petits contretemps, on règle l'affaire, puis on continue, il n'y en a pas de problème dans AA, c'est ce qui est merveilleux. Pour ça, je suis ici, pas pour avoir des problèmes, pour avoir des solutions, puis me rétablir. Moi, j'aimerais profiter, au début, de souligner, on n'est peut-être pas tous au courant, qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui ont relevé un défi dans des situations qui n'étaient pas évidentes du tout, des conditions qui n'étaient pas faciles pour nous présenter un congrès. Cette année, ça a été particulier. Bon, je sais que dans quelques jours, il va y avoir un post-mortem, on va étudier ce qui s'est passé. Mais le plus beau du post-mortem, c'est ce que j'ai vu sur Facebook ce matin. Ce matin, dans Facebook, des membres qui sont venus hier disaient toute leur joie, tout leur bonheur d'avoir été ici. Puis je pense que, peu importe ce qui s'est passé, là, le congrès, c'est une réussite, puis il a fait la job. Fait que je voudrais remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués pour notre congrès. Je pense que ça va une main d'applaudissements. Ceci dit, mon nom, c'est Marc. Je suis un outre-mangeur compulsif. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours mangé d'une manière disproportionnée par rapport à ce qu'on pourrait dire la normalité. À plusieurs occasions, dans des restaurants, on m'a demandé de montrer l'argent pour assurer que j'étais capable de payer toutes les niaiseries que j'avais commandées. Parce qu'un être humain, normalement, il ne commande pas autant que ça d'un restaurant pour manger. Il m'a demandé, t'es sûr d'avoir l'argent pour payer ce que tu as commandé? Ça ne m'a jamais allumé rien. Je n'ai jamais ressenti de problème de compulsion alimentaire peut-être avant l'âge de 40 ans. Même si je mangeais d'une manière vraiment là, folle, j'avais pas de problème physique, j'avais pas de problème moral avec ça, ça allait bien, la vie était belle, et puis bon. À un moment donné, j'allais à un dîner avec une secrétaire, et puis un bonjour, elle me dit, Marc, elle dit, j'irai plus manger avec toi le midi, elle dit, comment ça? Elle m'a dit, tu manges tellement vite, que j'ai l'habitude instinctivement de te suivre, j'ai des problèmes d'estomac quand je reviens au bureau l'après-midi, je ne peux plus aller manger avec toi, je vais être tout croche. On appelle ça de la compulsion. Mais ça n'a jamais cliqué, ça n'a jamais allumé. Bon, regardons ça, ben, à un moment donné, elle ne mangera plus, puis c'est tout. Ça n'a jamais été assez intelligent dans ma tête là, pour penser que peut-être que si je modérais un peu ma vitesse de manger, mais je n'étais pas conscient de ça. Hein. Dans les années 2000, fin des années 90, j'avais un médecin qui m'envoyait prendre des prises de sang pour le cholestérol. Puis à chaque fois que je revenais, puis elle recevait les résultats, elle me faisait venir dans son bureau, puis elle m'engueulait. Ben, c'est une Française, pour ça, ça va mal. Puis un jour, elle m'a donné une prescription pour aller faire prendre mon cholestérol, et puis un mois et demi plus tard, elle m'a appelé, elle dit, j'ai pas eu les résultats, je suis pas allé, je suis tanné de me faire engueuler. Mais ça n'a jamais cliqué dans ma tête que peut-être qu'au lieu de faire ça, je serais mieux diminuer ou faire attention à ce que je mangeais. C'était même pas une pensée que j'avais à ce moment-là. Hein? Et puis, ça m'a amené au jour où, avec le temps, là, je veux dire, quand je faisais beaucoup, beaucoup de sport, j'avais une taille en V. J'avais des épaules, 28 de taille, je mangeais comme un défoncé, la vie était belle, mais j'engraissais pas, j'avais beaucoup de gars. Puis un jour, la lettre a changé, c'est devenu un A, puis après ça, c'est devenu un O. Puis c'est vers l'âge des 40 ans, à un moment donné, là, j'ai pris conscience réellement là, que j'avais un problème. J'étais déjà dans une autre fraternité depuis plusieurs années, et, bon, j'avais arrêté de consommer de l'alcool. Et j'ai étais conscient, je connaissais que ça existait des fraternités, et en 98, je me suis présenté à mon premier meeting au Hall. J'avais appelé, j'avais vu où, je m'étais présenté à mon premier meeting au Hall. Et j'avais dit, quelques années plus tard, ben, j'ai dit, j'ai été guéri vite parce que je connaissais le mode de vie. Mais après réflexion, c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Je suis parti parce que j'avais pas eu ce dont j'avais besoin. J'avais pas reçu ce que j'allais chercher au meeting au Hall en 98 parce que, comme bien des nouveaux qui arrivent, mon problème, c'est un problème de bouffe. Je ne cherchais pas Dieu, il y a des églises pour ça, puis j'avais déjà le mode de vie. Je ne cherchais pas non plus le mode de vie, parce que je le vivais depuis plus de 15 ans avec or. Je cherchais une solution à mon problème avec la bouffe. Puis, ça, tantôt, je riais. Est-ce qu'on peut parler de nourriture aujourd'hui? Bien, on fait quoi si on ne parle pas de nourriture à des outre-mangeurs? On ne peut pas parler juste de du beau temps. Le problème, c'est... Et ça m'amène à la définition, ma définition, de la compulsion alimentaire. Ma définition qui est exactement la même que l'alcoolisme. Pour moi, la compulsion alimentaire et l'alcoolisme ont la même définition. C'est pas la même chose, mais ils ont la même définition. J'ai une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Alors, la définition qui s'applique est exactement celle qui s'applique dans mon cas pour la compulsion alimentaire. J'ai une allergie physique et à certains aliments. Dans mon cas, c'est du sucre. Je veux dire, il y a des bols de bonbons, là, il n'y en a jamais, il n'est jamais assez grand pour m'assurer que je ne verrai pas le fin d'un bol de sucre à grand. Ça, c'est clair. Donc, j'ai une allergie physique. Si je trouve des choses sucrées, je suis fait à l'os. Le sel me dérange moins, mais j'ai une allergie physique à ça. À partir du moment où je fais ça, bien, il faut que j'essaie de limiter, je fais mon plan alimentaire. Ça, ça a pris du temps, parce que les plans alimentaires, c'est une espèce de mystère qu'on ne sait pas trop, puis... C'est complexe, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre c'est quoi un plan alimentaire. Mon plan alimentaire, c'est qu'il y a des aliments que je ne peux pas manger. Il y a des aliments que je peux manger, puis il y a des aliments qu'il faut que je fasse attention de manger. Il y a du vert, du jaune, puis du jaune-orange. Parce que le rouge, je suis allergique au rouge. Je refusais d'avoir des aliments rouges. Non, je ne suis pas pour arrêter ça, voyons, ça n'a pas d'allure. Donc, j'avais du vert. J'ai aucun problème avec le céleri. Personnellement, là, j'ai aucun problème avec ça. Le jaune, bien, fais attention. Hein? Le salé, normalement, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même que je sois vigilant parce que je sais qu'il y en a bien qui ont des problèmes avec ça. Puis le rouge, bien, c'est à peu près tout ce qui est bonbon, sucre, chocolat. Parce qu'ils font pas encore de palette assez grosse. Pour que je la finisse pas. Je suis aussi bien d'essayer d'arrêter de manger ça. Ça, c'est la première partie du plan alimentaire, c'est de vérifier. Et ça correspond avec la définition, la nouvelle définition de l'abstinence. D'arrêter de manger compulsivement et d'atteindre mon poids santé. Pour atteindre mon poids santé, bien, il faut que j'arrête de manger des cochonneries et des calories. Ça, c'est pas tout à fait fait, mais on l'espère. Il y a aussi, me rappeler de ce que ma secrétaire me disait dans le temps, peut-être diminuer la vitesse. Ça fait partie sur le plan alimentaire, pour moi, ça devient, puis c'est en train de se travailler, là. C'est pas juste la bouffe, comment la manger, quand la manger, avec qui la manger. Mange pas ça devant la TV, parce que j'ai entendu dire à un moment donné que tu étais tellement pris dans la TV que tu pensais plus à ce que tu mangeais, puis c'était pas fort. Fait que c'est tout ça qu'il faut que je fasse dans mon plan alimentaire. Et avec ça, je suis prêt à jouer au yo-yo. Je suis prêt à prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids, un peu comme bien du monde ont fait, qui ont perdu 500, 1000 livres. Je suis prêt à tout faire ça. Si je ne fais que ça, c'est comme si je vais dans un régime ordinaire, je vais reprendre mon poids, m'en perdre mon poids, m'en jouer. Parce que je n'ai pas encore regardé la deuxième partie de ma définition. La deuxième partie qui est l'obsession mentale. Ça, là, maudite affaire. L'obsession mentale, si je ne suis pas bien dans ma peau, si je vis des émotions fortes, puis pour un bipolaire, toute émotion est soit très forte d'un sens ou très forte dans l'autre. Ça a été là avant que je le sache. Je ne le savais pas que j'étais bipolaire. Je le suis, là. Puis suivre le mode de vie pour un bipolaire, c'est un petit job, parce qu'on est des montagnes russes, mais les montagnes russes de l'enfer. Ça monte, ça descend sans arrêt. Donc, travailler sur les émotions, travailler sur tous mes sentiments, mais que ça va mal dans la vie, etc. Et dès que ça, c'est, j'en ai trop, je vais me chercher une soupape, je vais me chercher à me geler, je vais me chercher à tout faire. Si je n'ai pas la solution, je retourne dans la compulsion alimentaire puis je remonte. Pour ça, je dis, c'est les deux. Le rétablissement de la compulsion, il est aussi important, le rétablissement physique, que le rétablissement moral et spirituel, parce que c'est le rétablissement moral et spirituel qui va me garantir que je ne repartirai pas dans le yo-yo. C'est ça qui va m'enlever mon obsession mentale de ma définition. Bien. Avec ça, j'ai pas mal la base du début de mon travail. Ouais. Il reste à vivre avec ça. Moi, là, il faut que je vive dans la vie. Là, hein? J'étais un gars... Et j'ai des hauts, des bas. C'est pas parce que je suis dans OA que tout va bien se passer. C'est pas parce que je suis dans OA que le billet que j'ai acheté hier était gagnant. Je ne l'ai pas vérifié. C'est complètement secondaire. La vie continue. La vie continue et je dois être équipé pour la vivre, cette vie-là qui continue. Puis les outils, on les a. On a des outils de rétablissement, on a des outils de vivre. On a aussi un outil fondamental, c'est des réunions, c'est des rencontres, c'est des congrès. C'est quand on rencontre des membres avec qui on peut parler et qu'on peut écouter. Moi, je veux dire, ça fait 36 ans là, que je fais des fraternités, ça fait, je vais calculer ça tantôt, là, près de 1900 semaines, une couple de 1000 meetings, une couple de 1000 partages avec du monde. Et je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Et dans tous ces partages-là, je peux compter sur les doigts d'une main ceux que je peux dire qui n'étaient pas valables. Le doigt d'une main, là, on parle sur peut-être 3-4 000 partages, là. Et c'était des partages qui n'étaient pas, où je ne sentais pas la rigoureuse honnêteté, la simplicité des gens en avant. C'est pas important la qualité d'orateur, c'est pas important la qualité. L'important, c'est l'âme qu'il y a en avant. C'est la vérité qui se dit, c'est les vraies affaires qui se disent. Puis à partir de là, dans une réunion, que ce soit le partage, que ce soit souvent le secrétaire qui va dire quelque chose, toutes les personnes qui vont en avant sont susceptibles de dire quelque chose qui va m'aider là ou plus tard ou dans ma vie. Je suis susceptible d'avoir des choses que je vais retenir pour éventuellement m'aider. Oui. Puis, c'est un fait. À un moment donné, un exemple très simple, j'ai eu des problèmes majeurs, fait un burn-out, j'ai été 7 ans sans travailler, fait qu'il s'est suivi quelques petits problèmes. Mais un jour, dans un meeting, un membre a dit, « Quand ça va mal, c'est temporaire. » C'est niaiseux, ça. Mais c'est ce qui m'a relancé. C'est ce qui m'a permis de dire, « Bon, bien, écoute, c'est le fun, là, c'est temporaire, on passe donc à d'autres choses. On va aller mieux parce que ça va finir par finir. » faut faire attention parce que quand ça va bien, c'est temporaire. Mais c'est des choses comme ça, à un moment donné, qui, dans la vie, font que tu avances, que tu entends les gens parler, que tu entends les choses. Tu as aussi, moi, depuis un an, j'ai des problèmes. Ça pourrait aller mieux, beaucoup mieux. Mais je suis impliqué dans du service. Je suis impliqué dans du service et je peux dire que dans la dernière année, c'est le service qui m'a maintenu. C'est le service qui fait que je suis ici aujourd'hui. C'est le service qui fait que j'ai fait des meetings et que je ne me suis pas laissé aller dans la dépression chez nous. Tu as des responsabilités, tu es dans le service. Veux, veux pas, même si c'est dans OA, quand je prends une tâche, en fait, je me rends à la fin. Même peu importe si c'est facile ou pas, ma tâche va se terminer, le 1er décembre, je vais avoir un successeur qui va me dire bonjour et merci. Ma tâche est finie. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter le service. Mais cette partie-là va être terminée, ma fonction va être terminée après 2 ans. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément dans la dernière année. Je m'occupe de l'Oasis. Puis, si vous achetez l'Oasis, vous la lisez. Mais avant que vous l'ayez lu, j'ai lu tous les partages au moins 5 fois. J'ai fini par comprendre. Même si je ne suis pas vite, je finis par comprendre. On reçoit les partages, on les lit. On l'envoie à la correction, on reçoit la correction, on les relit. Il faut faire de la révision. On fait la mise en page, on les relit. Un coup qu'on l'a envoyé, on reçoit l'épreuve. Là, je les lis 2 fois après ça. Quand vous recevez l'Oasis, j'en ai bénéficié 5 fois. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir ça. Et ça l'aide énormément. Peu importe le service. Des fois, dans le service, peu importe ce qu'on fait, que ce soit ici ou que ce soit ça, les pots viennent plus vite que les fleurs. Je ne sais pas, les pots voyagent plus vite que les fleurs, souvent. tu aurais dû faire ça. Comment ça fait que tu n'as pas fait ça? Puis, pas important, ça. L'important, c'est ce qu'on fait. L'important, c'est qu'on est dans notre établissement. Les fondateurs, parce qu'on parlait de Bill et Bob, ils ont laissé un triple héritage, qu'on a exactement la même chose là, que les... Et le triple héritage, c'est le rétablissement avec les 12 étapes, l'unité avec les 12 traditions et le service avec les 12 concepts. C'est la même chose. C'est un tout. Je n'ai pas à me priver, si je veux me rétablir concrètement, je n'ai pas le choix de faire les 3. Pourquoi je me priverais? Pourquoi je me priverais d'être mieux parce que je ne veux pas faire du service? Pourquoi je me priverais d'être mieux parce que je ne veux pas me rétablir, faire des étapes? Il n'y a pas de raison comme telle. Là. Le service est donc pour moi un outil essentiel. Là, je viens de parler en même temps de la littérature. Je viens de demander, tu sais, on a le parrainage, le marrainage aussi. Bon. Je n'ai pas à proprement parler aujourd'hui de parrain attitré ou. Je vais prendre un exemple d'un congrès ici. Moi, ma place dans un congrès, c'est où ils vendent du café, où il y a du café. C'est ma place de prédilection en un congrès, c'est de prendre du café puis de jaser avec le monde puis de parler. OA, c'est une thérapie de la parole. Et c'est tellement vrai, c'est pour ça que, à un moment donné, je me disais, bon, mais je faisais des blagues. S'il y avait une fraternité TA pour tout anonyme, ça serait à ma place. Hein? Mais je ne bénéficierais pas des mêmes avantages que j'ai aujourd'hui. Si je parle de nourriture dans les meetings, on devient qu'à manger moins, voyons donc. Hein? Si je parle d'alcool dans les meetings, on dit, ben, bois pas. Hein? C'est normal, la réaction est normale. Si je parle à quelqu'un qui ne connaît pas la maladie, qui ne l'a pas, il ne me comprend pas. Si je parle à quelqu'un, si je parle de nourriture avec un membre, avec un outre-mangeur, on est sur la même longueur d'onde, puis on se comprend. Ça, c'est une réalité qui existe ici, qui existe aussi dehors. Deux médecins qui parlent ensemble, ils vont se comprendre. Un médecin et un plombier ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est la même affaire par plus forte raison dans notre cas. Si je veux vraiment parler et que ça rapporte, c'est avec quelqu'un qui me comprend parce qu'il y a la même chose que moi. Et que je peux aussi écouter ça, j'ai un petit travail à faire avec l'écoute. C'est parce qu'un jour, j'ai compris qu'on a deux oreilles et une bouche. Moi, j'avais compris l'inverse. Mais si tu veux, je parle plus que j'écoute, puis c'est pas de même que ça devrait marcher. Écoutez. Et écouter sans juger le sujet. À un moment donné, je disais, j'ai eu des problèmes. Quand j'ai fait mon burn-out, que j'ai perdu la maison, j'avais comme des petits problèmes financiers. Oui. Et puis, c'est pas glamour, des problèmes financiers. Tu veux dire, des problèmes sexuels, ça, c'est glamour. Des problèmes de relations, en tout cas, ça, c'est glamour. Mais des problèmes financiers, tu niaises, c'est pas glamour. Et en même temps, non seulement ça, mais j'ai senti que si je voulais parler de mes problèmes financiers à quelqu'un, il y avait peur que j'ai emprunté de l'argent et il se touchait. Et je l'ai réellement vécu, ça. Je l'ai vraiment senti. Et moi, ce que ça m'a dit, c'est que si quelqu'un veut me parler d'un problème, je n'ai pas à juger si le problème m'intéresse ou pas, c'est son problème. Il faut qu'il en parle. Ma job, ça va être d'écouter, sans parler. Ça, c'est plus dur. Mais au moins, je suis rendu à cette étape-là. L'importance de l'écoute, l'importance de la parole, l'importance de l'échange, l'importance de la lecture. Et c'est pas inné. C'est ce qui va me permettre de ne pas jouer au yo-yo, de ne pas monter puis descendre dans mon poids puis d'avancer. D'avancer avec un mode de vie. Encore là, j'ai fini par comprendre des choses. Le mode de vie, il y a 12 étapes. Mais aujourd'hui, ce qui me sert peut-être le plus, c'est de la prière de la sérénité. Les 12 étapes sont, ben non, les 9 premières, là, les 3 autres, c'est du rappel, sont directement dans la prière de la sérénité pour moi. Quand je récite la prière de la sérénité, je fais mes 9 premières étapes. Et d'une manière bien simple, si je commence mon Dieu en partant, je viens de faire ma 2, ma 3 en partant, là, mon Dieu tel que je te conçois, j'ai réglé mon problème. Donnez-moi la sérénité. Je confie ma vie à Dieu, je lui demande de me donner la sérénité. D'accepter les choses que je ne peux pas changer. C'est quoi que je ne peux pas changer? Moi, Marc, là, aujourd'hui, je ne peux pas changer le fait que je suis un outre-mangeur. C'est simple, je ne peux pas le changer. Je le suis, c'est incurable. Je peux me rétablir, mais je n'aurai jamais guéri de ça. Heureusement que je le sais. Et je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas les changer, les autres. Je peux dire, je peux m'adapter. Je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde. Je n'ai pas un moyen d'aimer personne. Dans certains cas, le fait de ne pas pouvoir les aimer, c'est peut-être de dire, je suis mieux de ne pas les voir. S'ils me dérangent, il faut que je pense à moi. Hein? Et je les laisse aller, puis vivre et laisser vivre, ça fait aussi partie de ça. On laisse les autres pour moi. Hein? Le courage de changer les choses que je peux. Moi, j'étais très frustré. Je suis un gars frustré naturel. Quand ils ont changé les étapes en français, l'ancienne formule de la quatrième étape, c'est « Nous avons courageusement procédé à un inventaire minutieux de nous-mêmes. » Ils l'ont changé. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas changé. Nuance, parce qu'on ne peut pas changer les étapes. Ils ont corrigé la traduction. Ça revient même à cette affaire, c'est un jeu de mots. Donc, le courage de changer les choses que je peux, c'est le courage, premièrement, avant de savoir quoi changer, il faut tout bien savoir à partir de quoi je pars. Donc, ma carte. Mon évaluation à moi-même, c'est la base de tout changement. Ma cinquième, avouer à moi-même, à un autre être humain et à Dieu. C'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je parle à des êtres humains. Donc, ça me force à m'avancer intérieurement. Et changer, on parle donc 6, 7, 8, 9. C'est exactement les étapes, là. La prière de la sérénité me dit ça. Puis elle complète encore mieux la sagesse d'en connaître la différence. Essaye pas de changer les autres, sache la différence. Les autres, ça fait partie des affaires, tu peux pas changer. Mais change-toi, arrête de dire tu peux rien faire, tu peux changer tes affaires. Ça, c'est la fin de la prière de la sérénité. Hein? Puis, quand j'ai fini ma prière de la sérénité, quand je regarde dans le gros livre, là, le chapitre à l'œuvre, il y a des paragraphes extraordinaires après la 9e étape. On appelle ça les promesses de bonheur. Ils sont juste là. Quand on les a, c'est une petite feuille à part, là, mais ils sont là dans le gros livre. La 4e édition. Après avoir fait ma 9e étape, si je suis sérieux et appliqué dans les efforts que demande cette phase, je vais être surpris des résultats. Si je fais comme il faut ma prière de la sérénité et mes étapes et mon travail et sur moi et sur, pas sur les autres, mais sur l'acceptation des autres, j'en arrive à la prière de la sérénité. J'en arrive aux promesses de bonheur. Et j'en arrive automatiquement à la diminution de mon obsession mentale d'aller manger, d'aller me jouer avec la bouffe. Ben, c'est ça que je veux dans ma vie. Moi. Je vais arrêter de penser. Un symptôme que j'ai remarqué à un moment donné avec le temps. Quand tu es en train de dîner, puis tu es en train de finir ton dîner, tu es en train de manger, là. Hein? Puis là, la question la plus intelligente qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Mais comment donc pas finir ton dîner? C'est tous des petits symptômes, c'est à un moment donné que quand je ne veux pas les voir, je ne les vois pas, mais s'il faut que je les voie un jour ou l'autre, parce qu'ils sont là. Hein? Hein? C'est un peu ça. Je pourrais parler longtemps, on pourrait parler des expériences, on va parler de la peur. Là, je vis présentement de la peur. Je suis craintif. Je vais avoir une chirurgie à mi-octobre et ça me fait peur. Mais je ne suis pas paniqué. Je ne suis pas paniqué, j'ai juste peur. Puis, on a beau dire, tu sors de ton 24 heures. La peur, c'est pas bon. Mais il y a une réalité qui existe, là, je veux dire. C'est non sans risque et c'est normal que je sois craintif. Ce qui ne serait pas normal, c'est que ça m'empêche de vivre. Ce qui ne serait pas normal, c'est que ça m'empêche de vous parler. Ce qui ne serait pas normal, c'est que ça me force à manger plus. Parce que je n'ai pas de contrôle, parce que j'aurais la panique. Et dans la vie, c'est ça, je veux dire, peu importe ce qu'on fait, la vie reste la vie. Si j'ai à recevoir un coup de 2x4 en plein front, mal l'avoir, le coup de 2x4. C'est normal que je l'ai. C'est ça, la vie. Okay? Mon Dieu, il ne me retiendra pas. Je n'ai pas de bouclier devant le front. Je veux dire, il va rentrer pareil. Les meetings, ils ne le retiendront pas. Il va rentrer pareil, le 2x4 dans le front. Okay? Ce que ça va me faire, par contre, ça va me permettre de le subir puis de passer à travers. Okay? Ça ne rend pas la vie extraordinaire, ça fait juste me permettre de la vivre, puis de la vivre avec sérénité, dans le fond. C'est ça, ouais. J'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup, puis de parler, de penser, de tout ça. Puis j'en suis arrivé aujourd'hui simplement à la simplicité. C'est ce que Bob disait, Dr. Bob Abel, à la fin. La dernière parole, Dr. Bob, « Keep it simple, garde ça simple. » Puis c'est là que j'en suis, c'est là que j'en suis dans mon rétablissement, dans ma vie, dans mes meetings. Moi, je sais une chose. Je vais terminer mon mandat et c'est sûr que je vais encore être dans les services. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne le sais jamais d'avance. Actuellement, j'ai les clés du local à Laval. Le mercredi, j'ouvre la porte. extraordinaire comme service. Je veux dire, on n'a pas le choix, on a un système d'alarme, puis on est trois à avoir les clés. Mais ça me force le mercredi, moi, d'être là, puis d'ouvrir la porte. Je suis présent. Hein? Le service d'un groupe, entre autres, de rendre un peu à haut ce que j'ai reçu, ça me permet d'être à la réunion au lieu d'être à la maison, me dire, oh, il n'est plus à soir, oh, oh, je suis fatigué, je travaille plus, je suis fatigué, il n'y a pas de raison là, là, à moins d'avoir quelque chose. Mais il y a toujours moyen de se trouver des défaites. T'sais. Je n'ai plus de défaites quand j'ai un service. Je n'ai pas de défaites quand je suis obligé d'être là. Hein? Là, je pars d'ici, j'ai rendez-vous à Place Bonaventure, donc je pars d'ici de m'en vais à Place Bonaventure. Je n'ai pas de défaite dans ma vie de tous les jours. Je n'aurai pas plus dans OA si je t'ai impliqué. Peu importe où. Là, on parle à un moment donné de l'implication, le service. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Si personne n'est impliqué, le groupe fermerait. Si personne ouvre la porte, il n'y a plus de meeting. Si personne fait le café, il n'a pas, puis moi, je peux pas. Je peux pas me permettre de penser qu'un jour, il n'y aura plus de meeting. Je peux pas me permettre de penser qu'un jour, il n'y aura plus de membres pour parler. Il n'y aura plus de membres à écouter. Parce que c'est ma vie qui en dépend. C'est mon rétablissement. Moi, je vous... Merci de votre écoute. Je vais terminer là-dessus. Je n'ai pas de temps dans nos temps, je suis concerné. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis je vous souhaite une bonne fin de meeting. Si vous avez des questions dans OA, il n'y a pas 26 solutions, parlez-en, posez-les. Puis vous allez avoir vos réponses, puis ça va être merveilleux. Merci.